Studio des Écritures, un programme proposé par Sally Bonne pour la radio du Unité Radiophonique Mobile.
François, merci.
Je t'en prie.
De m'accueillir dans ton abri. Ton abri du RIF. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette formule qui désigne ton lieu de vie, de création, d'écriture et de lecture en ce mardi très pluvieux et très humide du 13 octobre 2020. Alors François, tu es artiste. Au sens le plus large, sans doute, que ce terme puisse recouvrir. Tu pratiques la performance, la promenade, la lecture, l'écriture. Peut-être quelque chose qui s'apparenterait à l'installation, et aussi d'autres modes d'existence hors de l'art, mais qui en deviennent. Ou du moins, une multiplicité de pratiques qui sont ensuite reconduites dans un récit et une présence dans ta parole et dans ton corps. C'est dans ta voix et par ton corps que ta pratique plastique et artistique se dit, parce que, à mon sens, il s'agit d'un dire, on y reviendra aussi. Tu construis un récit qui est fait de lecture et d'histoire, de tes histoires, où se superposent les éléments de ta vie d'artiste, des objets, des rencontres. Tu y ajoutes des éléments plastiques, des cartons au sens quasi cinématographique d'ailleurs.
C'est vrai.
Des pancartes, des panneaux écrits à la craie, des phrases écrites par toi ou par différents auteurs que tu collectionnes et que tu collectes. Ta dernière résidence au Générateur de Gentilly était une résidence d'écrivain. Tu l'avais intitulée « Le rêve d'une vie ». Est une autre vie, et tu l'as présenté ainsi. Je te cite, en fait, c'est dans les textes, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de... Tu as publié des textes à l'occasion de cette résidence.
Je crois un journal qui a été fait à l'issue de cette résidence.
Et en fait, au début de ta résidence, tu l'as présenté comme ça, donc je te cite.
Oui,
au seuil de cette résidence, je me présente à vous, entre guillemets, comme si j'étais écrivain. Et nous verrons bien si dans 10 mois, je m'autorise à me dire écrivain. C'est ce jeu avec soi-même et son vis-à-vis que je voudrais approcher dans mon récit. Les différents habits et livrer, endosser durant une vie. La posture de l'artiste et la part d'imposture qu'elle suppose. Finalement, ils ne sont pas si nombreux les moments où ce que je fais coïncide avec ce que je suis. Aussi avons-nous besoin parfois de passer par une fiction pour agir là où nous sommes. Alors, on va revenir sans doute sur ton parcours pendant cet entretien, pour commencer, ma première question, peut-être un peu abrupte.
Je t'en prie, sois abrupte.
Aujourd'hui, et à présent que cette résidence est finie, enfin qu'elle vient de se finir d'ailleurs, est-ce que tu te dirais écrivain? Et est-ce que tu te sens écrivain?
Non, c'est toujours un jeu avec soi-même. Mais comme je le dis souvent, c'est vrai que je mets très haut la figure de l'écrivain, encore plus haut que celle de l'artiste. Mais on peut dire... Mais c'est vrai que... En fait, j'ai l'impression d'être aussi toujours un espèce d'étudiant. Tu sais que j'ai pas une très grande confiance non plus en moi, donc je suis obligé de passer par toutes ces couches de vie, de récit. C'est vrai que je commence à prendre une certaine assurance à l'oral. Donc c'est vrai que ça devient un peu une forme dans laquelle je commence à me débrouiller. Mais c'est toujours fragile. Et l'écriture, et bien finalement, je me suis mis à écrire quand la résidence... Enfin, j'ai écrit pendant toute la résidence.
Oui, parce qu'il y avait une sorte
De journal de résidence.
Publié sur revue.net.
Sur revue.net. Et ça, je m'y suis engagé. Et c'est vrai que la forme journal, c'est la forme qui m'est la plus familière, avec la forme lettre. J'ai d'abord écrit des lettres. C'est comme ça que j'ai appris à écrire. Des lettres au professeur des Beaux-Arts, des lettres au directeur des Beaux-Arts, des lettres au père, des lettres... Voilà, je passais des journées entières à écrire des lettres. Et je m'en suis sorti un petit peu comme ça, même pendant mes études, j'expliquais pourquoi j'étais pas là, par des lettres. Et ensuite, c'est vrai que la forme journal, alors c'est pas du tout la forme journal intime, c'est plutôt une forme journal de travail. J'ai des cahiers aussi par lesquels je passe, mais c'est plutôt des... Je suis un petit peu copiste aussi, enfin j'aime bien recopier à la main des passages de livres que j'apprécie, puisque je me dis, cette lenteur, effectivement... oblige de recopier à la main. Moi, c'est ma façon un petit peu d'apprendre, de faire comme un musicien ferait. Mais écrivain, en fait, depuis les Beaux-Arts, on me renvoie ça. On m'encourage à... C'était Didier Semin, même Yves Michaud à l'époque, qui... Voilà, celui-là, tiens, il pourrait... peut-être... On m'indiquait déjà cette voie-là, en fait. Et moi, c'est vrai que je m'en suis toujours un tout petit peu défendu. Et puis j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une lettre que Didier Sommin m'avait écrite, qui était mon président du jury là, au diplôme. Et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir comme président du jury parce qu'il y avait vraiment une connivence entre nous. Enfin, je n'avais pas besoin de tout raconter. C'est comme tu me connais déjà un petit peu, j'ai cette tendance comme ça à tout déballer, à tout raconter un peu en vrac, sans trop hiérarchie, et des fois en faisant pas trop attention à qui j'ai en face. Et ça se retourne des fois un petit peu contre moi. Et cette question de la sincérité aussi, elle me travaille depuis toujours et je m'en débrouille pas très bien. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois sincère pour... Enfin, je peux pas me faire autrement que d'être sincère. Des moments, il faut que je sois un tout petit peu plus joueur et que je sache garder certaines choses. Voilà. Donc ça, je sais qu'il faut que j'ai encore... Et je sais que autant pour être artiste que pour être écrivain, j'ai peut-être pas encore trouvé la juste distance par rapport à moi-même, par rapport au matériau autobiographique que je manie. Je me défends effectivement d'un registre autobiographique, mais le fait est que c'est mon matériau. et là, je vais cette semaine partir à Clermont.
Tu t'en défends, par exemple ?
Ben, par rapport à tout ce truc-là, enfin, par rapport, tu vois, je cite souvent, c'est depuis maintenant plus de 20 ans, je suis le séminaire d'Yves Duberman, puisqu'il était venu au Beaux-Arts faire une conférence. Et effectivement, ce type, par rapport au cours auquel je pouvais assister au Beaux-Arts, avait un ton différent. Et puis chanter une sorte de jubilation, de désir, de connaissance, et puis quelque chose, une façon de transmettre son savoir qui me plaisait beaucoup. Et lui, par exemple, cite effectivement souvent Deleuze, l'émotion de Dipageux, etc. Et donc il y a toujours une espèce de culpabilité. Et puis c'est tellement, tu vois, associé à la littérature française, ce truc un petit peu nombriliste, tu vois, à tourner autour de son truc. Et c'est vrai que moi-même, voilà, donc du coup, j'essaie d'avoir de l'humour par rapport à ça, au moins. Je me moque aussi à travers ça de la figure de l'artiste, qu'on attend de l'artiste socialement aussi. C'est pour ça que je me suis fait en fait, même pendant mon temps d'études, même le fait d'être au Beaux-Arts de Paris, je ne l'ai pas tout à fait assumé tout de suite. Enfin, je me suis presque auto-exclu, puisque durant ces années d'études, j'ai passé plus de temps dans ma chambre de bonne, justement déjà à écrire des lettres, à reprendre les cahiers, à écouter la radio. Ça, je voulais en parler durant cette matinée avec toi, parce qu'effectivement, je me suis beaucoup construit avec la radio, en fait. Et à ma table, j'avais une chambre de 9 mètres carrés, avec le lit, la radio, et la table, et quelques livres, et une très belle fenêtre qui donnait sur Paris. Donc c'est vrai que pour moi, c'est aussi comme ça que j'ai appris, et j'entendais souvent, je m'endormais en écoutant l'émission d'Alain Weinstein du jour au lendemain. Alors ça donnait envie d'être écrivain. Et ça, c'est vrai, j'adorais. Et je me souviens justement d'un entretien qui était magnifique. C'était les mêmes nuits magnétiques avant. Et des fois, ça durait même de 10h15 à... Je me souviens, il avait fait un entretien avec Marguerite Duras, chez elle, rue Saint-Benoît. Et ça durait 2h30. Et c'était complètement incroyable. Puisqu'à Monet, on entend les bruits des travaux sur la façade en face. Et hop, elle bifurque, elle commence à parler des ouvriers qui sont... Et moi, c'est vrai qu'elle aussi, c'est une femme qui, quand même, dans les figures d'écrivains, tu vois, puisque quand on est, moi, je suis dans 68, donc l'émission littéraire, c'était Apostrophe, tu sais, et la première fois que tu vois, que j'ai vu Duras avec son col roulé, sa présence, moi, ça, elle incarnait vraiment la figure de l'écrivain. Je crois que c'est elle, la première femme que j'ai vue, et c'est vrai qu'elle avait un parler qui allait avec son écriture aussi, la même mélopée, la même. C'est ça que je. J'aime bien aussi, tu sais, c'est écrit. Enfin, j'aime bien quand, un écrivain lit lui-même à haute voix ses textes. Et je trouve ça souvent, c'est pour ça que je vais souvent à la maison de la poésie, parce que j'aime voir comment chaque écrivain se débrouille avec cet exercice. Et c'est souvent beaucoup mieux que quand c'est un comédien.
Ouais, c'est une voix.
C'est une voix.
Ouais. Alors on y reviendra, parce que justement, je pense que la voix, quand même, elle est importante.
Ça devient de plus en plus important.
Chez toi, dans ton travail. Chez toi et dans ton travail, et en fait, je pense que c'est... C'est pas juste une formule de dire chez toi et dans ton travail. D'ailleurs, on est chez toi, là, dans ta pièce. Et puis, on est entouré à la fois de livres, de papiers posés sur la table, de choses au mur avec des images, des textes qui sont écrits par toi à la main.
Ouais.
Des textes qui, j'imagine, sont aussi recopiés, comme tu disais tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Hein.
Je voudrais revenir sur une chose que tu as évoquée. Et puis, ça permettra de revenir sur ta résidence.
Oui.
Tu parlais de ta chambre bonne, tu parlais de la espèce de mise à distance qui a été la tienne pendant tes études aux Beaux-Arts, et tu parlais de la correspondance, du fait d'avoir écrit des lettres, que c'était, certes c'est une adresse, mais c'est aussi une manière de se tenir en dehors. Et justement, je voulais t'interroger sur cette situation qui est la tienne, d'être à la fois un tout petit peu, justement, chaque fois déplacée, qui est une position dans laquelle tu te mets volontairement, sans doute, ou que tu
c'est plus fort que moi, hein, ouais. c'est pas volontaire. Et,
non, parce que tu as intitulé ta résidence « Le rêve d'une vie est une autre vie ». C'est quand même pas rien.
Bah en fait, je parle d'une phrase d'Edmond Jabès au départ, en fait, dans le livre des questions, où c'est le rêve d'une rive est une autre rive. Et je l'ai, voilà, après je me dis le rêve d'une galerie est une autre galerie. Enfin, voilà, on n'est jamais là où on a envie d'être. Et on rêve toujours. Donc, ça aussi, c'était une façon de me moquer un petit peu de moi, en fait. Et aussi parce que l'agence de Pont-Funet dans laquelle je travaillais s'appelait L'autre rive. Donc, je me suis entendu dire pendant 3 ans. Quand le téléphone sonnait, l'autre rive, bonjour. Quoi. Donc c'est vrai que c'était assez... Enfin, encore une fois, quand je vivais ce métier, je ne me regardais pas le vivre. Mais le fait est que c'était... Voilà, ça finit, ça disait quand même une situation. Et c'est vrai que même quand j'étais au Beaux-Arts, je me sentais déjà un petit peu... il y avait quelque chose de mortifère pour moi dans cette école. Elle était... et quand je... Avant même d'y entrer, la première année à Paris, quand je passais devant... Quand j'étais Clément Laquais, je marchais devant, je voyais ce grand portail, cette école. Je me disais, c'est pas pour moi. Enfin, c'était trop. C'était trop grand. Et une fois que j'étais dedans, j'en ai pas joui, j'en ai pas profité, j'ai pas reçu. Parce que j'avais aussi, je pense aussi, bon, ça, il faut que je sois honnête avec moi-même, c'est que j'ai une sorte de vitalité, comme ça, par saccade. Mais j'ai eu des moments de difficulté un petit peu existentielle aussi. Enfin, toi, des petits moments de dépression avec laquelle j'ai dû lutter. Donc, c'est vrai que je me suis interdit beaucoup de choses et ce sentiment de que mon désir n'était pas assez fort. Tu vois, pour moi, le rêve d'une vie d'une autre rive, ça parle de mon désir aussi, et de ma capacité à jouir de l'endroit où je suis. Et puis j'ai toujours aussi douté de mes capacités, en fait. Donc j'avais toujours ce sentiment que j'étais pas prêt. Et qu'il fallait que je passe du temps seul pour me consolider, pour me constituer un terreau suffisamment épais pour ensuite m'exposer. Je suis plutôt quelqu'un d'assez long, en fait. Et je m'aperçois que je suis pas non plus très précoce pour emmagasiner les choses. Non, mais c'est vrai. Hein. Et là, tout à l'heure, avant que tu arrives, je lisais... pendant le confinement, là, j'ai lu Gombrowicz, Ferdi Dürck, sur la forme et l'immaturité. Et tout à l'heure, j'aimerais bien lire un passage, parce que ça, je trouve que ça disait beaucoup de choses. C'était très bien que je le lise à ce moment-là de ma vie, ce texte. Et, mais c'est vrai que là, je me dis que je suis quelqu'un de lent, et du coup, je m'auto-exclus, en fait. Puisqu'en fait, quand on me fait confiance, les profs aux Beaux-Arts me faisaient confiance, par exemple. J'avais besoin du désir de l'autre, pour moi-même y croire, en fait. Et c'est un peu... Là, je vais faire une résidence au Beaux-Arts Clermont-Ferrand, aussi en tant qu'écrivain.
Ouais.
Donc, je vais me retrouver dans ma ville natale, que j'ai quittée il y a 32 ans. Donc, ça va être une drôle d'expérience. Et parce que je sais pourquoi je l'ai quittée il y a 32 ans. C'était vraiment vital pour moi. J'ai un rapport à Clermont-Ferrand qui n'est pas très simple. Et je me disais, dans les choses auxquelles j'ai envie de travailler, c'est sur ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu y crois toi-même, à ton travail et à ce que tu fais? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les autres y croient aussi? Et t'invite pour une résidence, ou t'invite. Qu'est-ce qui fait qu'en cinquième année au Beaux-Arts, le prof de moulage, Robin Noguès, je suis avec des formes en papier, des formes de. Et ben, il m'a accepté dans son atelier. Et ça a tout changé, mon rapport au Beaux-Arts, puisque c'était un des rares profs des Beaux-Arts qui était présent à l'école dès 8h du matin, avec lequel on buvait un petit café, et à 8h30 on s'y mettait, et tout d'un coup à midi j'avais une journée derrière moi, un sentiment d'avoir fait quelque chose. Parce qu'en fait, au Beaux-Arts, ce qui est très difficile dans un premier temps, c'est de trouver effectivement ta place dans un atelier. Savoir où tu seras. Voilà, enfin, d'abord, il faut être accepté dans l'atelier. Donc, au début, moi, j'étais à l'atelier de Velikovic, donc très vite, j'ai senti que ce n'était pas ma place et que je ne serais pas peintre. Ça, c'était assez vite. Et c'est la première lettre que j'ai écrite à un des pros des Beaux-Arts. Il l'a très mal pris, parce que comme je l'avais dit, il s'emprisonne et s'évade de sa prison. Il n'a pas du tout aimé. Et voilà. Mais sinon, voilà, donc c'est. Moi, ça a été long de trouver où était ma place, en fait. Bah, c'est la question de la place, on en a déjà parlé ensemble. Ça va avec ça, en fait, aussi.
Mais là, par exemple, tu dis que tu refais une résidence à Clermont-Ferrand en tant qu'écrivain.
Ouais.
Et est-ce que... pourquoi, par exemple? Pourquoi est-ce que toi, qui as une pratique quand même artistique, on va dire, certes, totalement traversé de lecture et d'écriture, ouais. À la fois tes lectures de livres, l'écriture de textes que tu fais, l'écriture de textes aussi que tu recopies à partir de lecture.
Mmh. Et que j'offre.
Et que voilà, mmh. il y a une présence du texte qui est extrêmement importante dans ton travail d'artiste. Mmh. Ce pas de côté que tu fais en cherchant à intervenir dans des résidences d'écrivains, ça a quel sens pour toi?
Ah ben c'est comme ça en fait. Ah oui. Anne, par exemple, Dreyfus, elle, ce que je lui ai dit, pourquoi tu fais? Parce que d'abord, par rapport à la résidence que je viens de faire avec De France, je ne répondais pas aux premiers critères. Je n'avais pas été publié à compte d'éditeur. Enfin, donc je cochais pas la première case. Donc je dis, Anne, mais c'est pas possible. C'est pas... Mmh. Et je dis, pourquoi tu... Parce que moi, bizarrement, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est que les gens croient dans mon écriture, en
d'accord,
fait.
D'accord.
Et du coup, et puis ils voient bien aussi concrètement, les gens, des fois, on a besoin des autres pour. Enfin, ils voient bien que c'est. Même là, depuis quelques temps, effectivement, le fait que j'ai pas d'atelier, que je travaille chez moi, que c'est la table qui est devenue mon atelier, comme mon espace de travail s'est rétréci à celui de la table, effectivement, aider les beaux-arts, concrètement, je passais plus de temps à lire et à écrire. À produire des formes je produis des formes en papier que je pouvais faire dans ma chambre justement parce que c'était, je travaillais dans 9 mètres carrés, mais le fait est que quand même le plus clair de mon temps c'était quand même plus lire, écrire que après j'adore en fait ce que je préfère au monde en fait, ce que j'ai pu faire la dernière année aux Beaux-Arts, c'est agir là où je suis. Donc ensuite j'ai pu transvaser l'espace de ma chambre dans l'espace de l'atelier, donc j'étais dans l'atelier Stinko qui donnait sur les quais. On était très peu d'étudiants dans son atelier, donc c'est pour ça aussi que je l'avais un petit peu choisi et qui m'a laissé errer pendant des années. Mais le dernier moment, voilà, j'ai habité le lieu. J'ai par un geste de ménage, par un rangement de l'atelier, par un travail de pelliculage, et petit à petit j'ai distillé mes indices dans l'espace. Et c'est ce que je crois que dans mes lieux, toutes les expos que j'ai pu faire, finalement c'est ça. Comme j'ai pas d'atelier, j'agis dans le lieu qui m'accueille. J'essaie de l'habiter aussi par des écritures à la craie, des choses éphémères, des gestes répétitifs. Et qu'à un moment donné, quand les gens pénètrent quand les gens arrivaient dans l'atelier au Beaux-Arts, ils avaient l'impression qu'ils étaient chez moi. Et ça, j'adore en fait. Oui. J'adore que les gens ressentent ça. Oui. Même au générateur, c'était beaucoup plus difficile à me l'approprier parce que c'est gigantesque et c'est très... Mais le fait est que... Bon, t'as pas vu l'installation que j'avais fait au mois de février, qui était la plus belle, où j'avais distillé toutes mes archives sur... J'avais 4 boîtes d'archives, les années Truc, les années Hirschhorn, les années Confino et les années Durif. Et j'ai dû... Voilà, j'avais fait un cercle de livres, d'abord.
Oui, j'ai vu les images, oui.
Et ensuite, Anne m'a encouragé... Il y a un très beau sol dans cet espace du générateur, un sol gris avec un peu émaillé, que j'aimais bien. Effectivement, tout ce que tu poses au sol, c'est beau. Et moi-même, quand j'entends ma chambre de bois, même qu'ici, là, quand tu es venu, j'ai fait le ménage et j'ai rangé. Mais sinon, j'adore mettre les choses au sol, en fait. C'est là où je trouve qu'on voit le mieux, etc. Et donc là, j'avais donc fait des rectangles avec mes feuilles. Et j'avais fait comme un plan, en fait. Il y avait des chemins, etc. Les gens pouvaient circuler. Et je pouvais démarrer, je pouvais marcher comme ça, et puis ramasser un truc au sol, une petite citation, et démarrer un récit à partir juste d'une brindille que j'avais récupérée au sol. Et je m'étais dit, là, j'étais vraiment en forme ce jour-là, beaucoup moins tendu qu'au mois de juin. Et du coup, j'aurais pu en faire tous les soirs, parce que ça ouvrait plein. Et là, je me sentais libre. Et là, tous les registres se tressaient, le registre autobiographique avec les textes. Et je me sentais tout à fait porté par les gens qui étaient là aussi. Il y avait quelque chose de très, très amical ce jour-là. C'était beaucoup plus rude au mois de juin. Mais c'est vrai que moi, je suis très sensible aussi à ce petit... à la personne qui est en face de moi, toi, au contexte. C'est vrai que je suis un petit peu vibratif comme ça. Donc, du moment, je peux m'effondrer comme un château de cartes. Comme je peux... La première fois qu'on s'est rencontrés... Enfin non, on s'est vu dans l'atelier d'Arnaud Vasseux à Marseille. Mais ensuite, quand t'es venu me voir au musée des moulages, là, j'étais bien. Parce que j'avais déplacé ma table. J'avais passé beaucoup de temps dans ce lieu. Il y avait une familiarité. Et ça a été un moment très important, ce moment du musée des moulages. Parce que finalement, je n'ai pas fait les promenades dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Louis. Très vite, c'est devenu des promenades autour de ma table, avec mes lits, mes citations, mes machins, mes trucs, entourés par tous ces portraits et ces bustes de ces messieurs dermatologues. Mais c'était un dispositif qui m'allait très bien.
Ouais, ça, par exemple. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tes interventions qui lors desquels tu t'environnes littéralement, en fait, de mots, de notes prises par toi, de lettres, de citations, de livres d'auteurs, qui t'accompagnent dans tes marches, enfin, et dans tes démarches, en fait. Mais littéralement, au sens où ils occupent ton espace.
Ouais, ils m'encombrent un peu.
Ils occupent ton abri, ils occupent, j'imagine, ton esprit. Et est-ce qu'on peut pas dire que les mots sont ta manière d'habiter le monde ?
Bah, c'est vrai que j'ai besoin de toutes ces... Ça et le geste du ménage, en fait. Non, mais c'est de... Toi, quand j'arrive chez dans un lieu, c'est vraiment le premier truc, c'est vraiment à quatre pattes, à laver. Enfin, j'adore, mais bon, même avec une éponge, quoi. Et c'est premier, bon, ça vient de ma mère, de tout, plein de choses. Mais c'est vraiment d'abord cette dépense physique un peu en pure perte qu'est le ménage, et puis que t'en as jamais fini de... Et avec les mots, c'est pareil, je n'aurais jamais fini de recopier ces citations, et c'est sans fin, mais j'ai besoin de toutes ces couches d'écriture. C'est pour ça que j'adore l'écriture à la craie aussi. C'est peut-être ce que je préfère le plus, parce qu'il y a toujours ce truc d'effacement, de recommencer, d'effacement, de recommencer, parce qu'en fait, quand j'étais gamin, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à... D'abord, j'ai mis du temps à parler, après, je me suis bien rattrapé. Et après, avec l'écriture, j'aimais pas mon écriture, je la trouvais pas belle.
Graphiquement.
Parce que j'avais appris au stylo Bic, ma sœur aînée, elle avait une écriture magnifique, directe, quoi. Et dès l'adolescence, tu vois, à 11-12 ans, elle a l'écriture qu'elle a aujourd'hui. Enfin, elle a toujours eu une écriture hyper régulière, très belle. Et moi, c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à avoir une belle écriture. Enfin, et du coup, je recopiais dans mes cahiers, je déchirais les pages. Pour avoir, parce que j'étais pas content, même de la graphie en fait. Donc ça, c'est une petite névrose aussi. Hein. Donc, et puis ce truc de. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de... Et ça, et les images en fait. Tu vois, de mettre des petites images au-dessus de ma petite table de travail. C'est des gestes, tu vois, ça s'appelle la petite carte postale, le machin, etc. Bon, après, quand j'étais à Saint-Thomas-Serchamps, j'étais aussi celui qui découpait les images. Donc, j'ai appris à découper des images dans la presse que je ne faisais pas avant de le rencontrer. Donc, ça, c'est rentré dans mon stock d'images. Mais c'est vrai que j'ai besoin de... Et des petits objets, des petits cailloux. En fait, c'est comme, tu vois bien, quand, même là, sur ma fenêtre, c'est ces petits cailloux, c'est toi, c'est... Oui, j'ai besoin... D'ailleurs, toi, il y a un mur, effectivement, dont j'ai enlevé la peinture, avec une écriture à la craie, de l'effacement, etc., et des mots... avec des mots un peu... qui a amené mon...
Tu peux lire ce qu'il a écrit ?
En fait, la première citation, en fait, c'est une citation des confidences d'artistes d'Odilon Redon. Mm-hmm. Tout pli fait en nous... alors, toi, je vais...
C'est effacé.
C'est effacé. Ouais. En dessous, il y a confetti. En dessous, il y a comme si. Et pour une installation que j'avais faite à Tbilissi, il y a cette phrase, en fait, par exemple, même pour un travail plastique, on m'invite dans une foire d'art contemporain en Géorgie, le point de départ, c'est une phrase de Paul Valéry, que je déplie et qui devient une performance. Mmh. Là, c'était « Tout commence par une interruption », cette phrase, ça, je l'avais recopiée maintes fois, je l'avais mal traduit dans ma tête, « Tout commence par une séparation », non, c'est « Tout commence par une interruption ». Après, je l'ai fait traduire en anglais, donc ça devenait « Interruption starts everything ». Et ça a été le point de départ de la performance que j'ai fait sur place là-bas, où j'avais des cartons blancs, où j'ai écrit cette phrase sur le pourtour du carton blanc, et je voulais circuler, en fait, comme la Géorgie, je l'associe à Tati, parce que Georges Tati est d'origine aussi géorgienne, et qu'il y a un sens de l'humour chez les Géorgiens que j'aime beaucoup. Je voulais être un petit gars qui circule dans les allées de la foire. J'étais le seul performeur de la foire avec ses cartons à tanguer dans les allées. Et c'est vrai que le mec qui m'a invité, là, Eric Schlosser, mon Buster Keaton, ben là, j'avais un truc un peu cinéma muet. Mmh. Et il y avait, l'année d'avant, il m'avait vu à Vilnius, où j'avais effectivement une ardoise avec une écriture à la craie, qui évoquait vraiment les cartons de cinéma muet, où j'étais comme ça une figure de gardien immobile dans la foire. Là, j'étais une sorte de comique qui circulait et dans les allées. Et j'aime bien, parce que j'ai ce côté un peu... Enfin, j'aime bien, dans les performances que je peux faire, quand même qu'il y ait quelque chose un comique involontaire un peu, enfin qui est un peu, que j'ai ce côté un peu raide, saccadé, tout ça là, et que je peux être des fois super grave et cru dans les choses que je peux dire, et tout d'un coup que je fasse rire à un moment donné, c'est une respiration, ça fait du bien, enfin, et pour moi et pour les gens qui, hier j'ai fait une lecture au générateur, là c'est vrai que j'étais un petit peu trop chargé, quoi. Et enfin, parce que les textes, c'est la première fois que j'ai lu plusieurs textes d'affilée,
les textes que tu avais écrits pendant
le remue.net et qui sont dans ce journal, Et je me suis aperçu qu'ils ne sont pas si faciles que ça à entendre pour certaines personnes dans le public. Je ne me rends pas compte de la charge que ça peut avoir. Parce que moi, c'est tellement, effectivement, voilà, un matériau que je manie depuis longtemps et ça a été ma réalité pendant un temps. Je ne me rends pas compte que pour certaines personnes, au bout de trois textes, ça suffit. Et ils préfèrent que j'improvise. Tu vois, et parce qu'effectivement, je n'ai pas le même débit de voix. Je raconte d'autres choses quand j'improvise, en fait.
Et alors, justement, sur cette question de la parole, je voulais savoir quel rapport à la parole tu entretiens, parce que tu es quand même très attentif à l'advenu d'une parole, de la parole, la tienne sans doute, mais aussi peut-être celle des autres qui passent par toi. Et je pense que le fait de passer par toi, c'est aussi de passer par ton corps et par ta voix. Est-ce que tu dirais que l'écriture est pour toi une parole?
Oui, ça, je travaille beaucoup là-dessus. Enfin, c'est chouette que tu me poses cette question. Alors, pour te répondre, je vais essayer d'être... Alors, c'est vrai que je parle beaucoup, mais jamais écouté aussi. Et c'est vrai que quand j'ai choisi le métier de pont funèbre, après les années, donc les 3 ans que j'ai passé dans la... Non, les 4 ans, 5 ans que j'ai passé dans la tête de Thomas Serchorn, j'ai décidé de quitter le monde de l'art pour gagner ma vie. J'ai fait ce bilan de compétences qui m'a amené à travailler dans les ponts funèbres. Et dans les ponts funèbres, justement, je recevais les gens autour d'une table ronde comme celle-ci. Tout se jouait dans le premier moment avec les familles que j'accueillais. Et j'étais dans une position d'écoute. Et où je n'avais pas de papier, je ne prenais pas de notes. Et donc, je pense que ce métier m'a appris à écouter. Apprendre à me taire et apprendre à écouter. Et quand j'ai été au musée des Moulages, justement, le fait que j'ai été présent les 15 jours précédant l'ouverture de l'exposition, j'étais donc au rez-de-chaussée de ce musée des Moulages au sein de l'hôpital Saint-Louis, et je faisais partie un peu du décor, les gens ne connaissaient pas très bien mon statut, et j'ai eu plein de gens qui sont venus me parler. Et c'est ça que j'ai restitué un petit peu après. Mm-hmm. Et ça, je crois que je gagne que ce ne soit pas que ma voix à moi, que d'autres voix se mêlent à la mienne. Mmh. Alors ça, un jour, peut-être que j'arrive dans l'écriture, je n'y arrive pas encore, je crois, complètement, mais je me dis que ça serait bien qu'effectivement... Mais c'est vrai que là, le texte que j'ai écrit cet été, je suis parti de l'enregistrement d'une promenade que j'ai fait au Père-Lachaise le 22 septembre dernier, que je l'ai retranscrit à la main, et que ça a été le point de départ du texte. Mmh. Et que c'est vrai que ce passage de l'oralité à l'écriture, enfin, ces allées et venues, je crois que c'est ça qui me travaille. Mmh. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu aussi aller voir Jean-Yves Joinet. Enfin, beaucoup de gens me conseillent d'aller le voir par rapport à l'Encyclopédie des guerres, en disant littérature orale, etc. Enfin, voilà, c'est le pas de côté que lui a fait. Et donc, c'est vrai que lui-même, dans l'immense programme qui s'est donné avec ses mots, il y a de la biographie, l'autobiographie qui rentre comme ça de façon impromptue, une sorte d'humour aussi. Mmh. Et donc, j'ai compris pourquoi les gens m'avaient dit d'aller le voir. Et je suis content, le truc qu'il ouvre, parce qu'il a fait école un peu. Il a ouvert, et c'est vrai que je pense qu'en tant qu'enseignant aux Beaux-Arts, il doit plutôt faire... Enfin, ça doit être une figure un petit peu atypique. Par exemple, moi, dans mes années... Il n'y avait pas d'enseignement de l'écriture au sein des Beaux-Arts. C'est venu juste après. Mais c'est vrai que l'enseignement que j'ai reçu aux Beaux-Arts, c'était beaucoup, ce que je le dis souvent, là. Mais c'est vrai qu'on me conseillait de lire des livres, en fait. Mmh. C'était ça, l'enseignement que j'ai reçu. Ouais. Même de la part des chefs d'atelier, pas seulement des cours théoriques, c'était vraiment... et ça, je pense que c'est très français aussi. Mmh. Enfin, c'est très l'enseignement français. Mais c'est vrai que... Et c'est vrai, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'à l'école des Beaux-Arts, j'ai appris à parler. Puisque j'avais pas une production très grande, les gens, je retenais leur attention ou je les touchais par ma façon. J'étais toujours le même, en fait. J'arrivais avec un sac à dos ras-bord, je sortais des trucs et je racontais mes histoires. Et du coup, alors je dirais que quand j'avais eu, je sais plus quel prof là, un qui était anglo-saxon, là, alors lui, il me disait, ta pensée est là, ton travail est là, il faut que tu rééquilibres. Parce que matériellement, pendant des années, j'avais pas une production enfin, c'était fragile, quoi. Mmh. Et c'est vrai que, mais c'était presque pour moi la parole, c'était presque un truc de survie. Ça, c'était juste justifier, légitimer le fait d'être là. Et du coup, mais dès l'entrée des Beaux-Arts et dès la sortie aussi, mon diplôme, il y avait plastiquement, je crois que l'installation était belle dans l'atelier, donc il y avait quelque chose qui était assez doux mais habité. Mais le diplôme, ça a été aussi un récit.
Mmh. Oui, mais est-ce que ça suffit pas?
Si,
ça peut pas être là ton travail. Si, dans la parole.
C'est ce à quoi je me résous presque, tu vois, puisque même quand Laurent Payant m'avait invité à la résidence de Montfanquin, il me poussait de ce côté-là, et je commence à me dire que, par contre, il faut que je sois plus... Là, ce qui me... Hier, les remarques que j'ai eues par rapport à la lecture que j'ai faite, par exemple, quand je lis, j'ai une sorte de mélopée assez particulière. Quand, là, j'ai écrit ce texte cet été, je l'ai beaucoup lu à haute voix, et j'ai corrigé vraiment comme ça à l'oreille, mais vraiment de façon très systématique, et essayer de me fier à mon oreille, même si j'ai pas l'impression d'avoir une oreille très machin, mais enfin, en tous les cas, je sais que je connais mon tempo, en fait. Et donc, je me dis, c'est ça qui doit, auquel je dois être le plus attentif. Mais quand je lis, je laisse pas assez de... Mais peut-être dans la parole aussi, peut-être que ce matin, ce que je fais avec toi, je laisse pas assez... Enfin, je sais pas m'arrêter, en fait. Je suis un peu dans le flux, et je me dis, justement, j'y pensais cette nuit... En sachant qu'on allait se parler ce matin, je me disais, le travail d'un écrivain aussi, c'est savoir, ou le travail d'un artiste, c'est savoir à quel moment s'arrêter. Toi, à quel moment
arrêter. Tout commence par une interruption.
Voilà, non mais à quel moment tu arrêtes la phrase, comment tu ponctues ton texte, à quel moment tu passes à la ligne. Les premiers textes que j'ai écrits, c'était des blocs, et c'était que des virgules. Et je commençais en haut, et je voulais que ce soit fini au bas de la page. Petit à petit, j'ai appris à mettre des points, à ponctuer, et ensuite à sauter des lignes. Mais je sais qu'au départ, je suis plutôt dans le flux, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, même très maladroitement, là, au mois de juin, j'ai évoqué le travail d'analyse qui t'oblige effectivement, à un moment donné, à arrêter ce rapport hallucinatoire à ta propre parole, où tu n'entends plus ce que tu dis, quoi. Donc, tu as une tierce personne qui est là pour t'aider à entendre ce que tu es en train de dire et t'interrompre à un certain moment pour te réveiller dans ta parole. Parce que moi, effectivement, je me méfie aussi beaucoup de ma parole. Je sais que je peux faire exister des choses par la parole, mais je peux aussi tuer des choses par la parole. Et des fois, parce que j'en avais parlé de certaines choses que je voulais faire, ben, j'avais plus besoin de les faire parce que j'en avais parlé. Ça suffisait. Tu vois,
peut-être que oui.
C'est ça. Mais c'est ce autour de quoi je tournoie depuis, tu vois, je suis plutôt jeune. Et je me dis, t'auras mis du temps pour même l'accepter, le métaboliser presque, enfin le dire, et de ne pas en être malheureux, que ça soit assez jubilatoire, en fait.
Mais justement, pour continuer dans ce questionnement-là, je relisais il n'y a pas longtemps le dialogue de Platon qui s'appelle Phèdre. Bon, il est question beaucoup de l'âme, de l'amour et de l'âme, mais il y a à la fin du dialogue une critique de l'écriture, parce que Socrate dit que en fait, l'écriture fige la parole, fige le mouvement, elle fige ce que tu dis, ce que tu appelles le flux, et l'exercice de la pensée. Et je pensais alors à ton usage de la promenade performée, aux récits aussi dans lesquels tu entraînes les auditeurs, spectateurs...
Participants, même.
Ouais. Je me demandais, dans ton cas, quelle manière tu envisages cet écart entre dire et écrire, entre dit et écrit, entre parole et texte. Tu vois, avec cette idée, en fond, de d'un côté, ce que Rabelais appelle des paroles gelées, cette espèce de fixation, qui est celle de l'écriture, nécessairement, en tout cas, à un moment donné. Enfin, je regarde autour, derrière toi, il y a un mur avec plein de mots écrits, donc ce sont des on pourrait dire des paroles figées.
Oui.
Entre ton flux de paroles et ce type-là de paroles figées, comment toi tu travailles cet écart-là, en fait?
Bah souvent, je cite, tu sais, ce texte que je trouve magnifique à Deponge qui s'appelle Tentative orale, dans son recueil Méthode, et il parle beaucoup de ce. Il dit justement, si tu es un écrivain, justement, je pense que Ponge, pardon, il avait une difficulté au niveau de la prise de parole, il le dit lui-même. Et d'ici j'ai choisi ce métier, c'était un peu pour être à l'abri de mon établi et ne pas avoir à m'exprimer à haute voix, où il critique même l'exercice de la conférence. Pourquoi on demande à un écrivain de prendre la parole et pourquoi ce dispositif d'un homme seul avec des gens qui l'écoutent, et c'est là où il s'adresse aux objets, à la table, etc. Et pour moi, c'est le premier que j'ai lu ce truc sur... Il dit écrire contre les paroles, justement. Et il dit qu'écrire, c'est corriger sa pensée, justement. Parce qu'effectivement, quand on parle, on s'entend pas forcément, on dit des conneries aussi, enfin j'en dis, enfin on n'est pas précis, on n'est pas aussi précis qu'on souhaiterait, on fait des bifurcations. Moi je suis beaucoup dans la digression, donc des fois je perds le fil moi-même, et effectivement quand j'ai retranscrit cette promenade, par exemple, ce qui m'a amusé dans la promenade, finalement, quand je l'ai entendue enregistrée, où là, j'ai vu mon rapport à la parole. J'ai vu comment les coqs à l'âne que je pouvais faire. Alors, effectivement, des fois, c'est comique. Des fois, je perds les gens en route. Mm-hmm. Mais en même temps, ça les fait marrer. Et en même temps, je retombe bizarrement sur mes pieds à la fin. Mais de façon complètement... un peu... Et je mêle des registres de parole très différents. À la fois j'ai une sorte de récit comme ça où je dis pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fous là, etc. Enfin, j'essaie de m'amuser même de ce dispositif de la promenade, etc. Je suis épaté que les gens soient là aussi, parce que à chaque fois que je faisais promenade, c'était un peu comme un jour comme aujourd'hui. Ils avaient un temps en disant merci d'être venu parce que vous auriez pu faire autre chose de votre dimanche après-midi, quoi. Et après je mêle des récits très très concrets sur qu'est-ce que c'est qu'une tombe, après hop je parlais d'un truc de Blanchot, après hop je parle de Ponge, après hop, et donc c'est comme ça, finalement cette succession de coupes et de récits discontinus, voilà, la promenade, le fait qu'on se déplace dans l'espace, qui a aussi des intentions du monde extérieur, enfin là c'était le début d'automne, il y avait du vent, il a plu, oui il s'est mis à pleuvoir dès le, donc je pensais à Brouters, la pluie, projet pour un texte, ça m'a se rappeler des souvenirs de pompes funèbres, enfin de quand je faisais des obsèques sous la pluie, ça m'a voilà ça, et puis ça là ce jour-là je m'étais habillé dans le costume j'avais repris mon costume que j'avais pas porté depuis 12 ans de maître de cérémonie avec la cravate et tout, et du coup j'étais un peu ridicule la figure du croque-mort elle est un peu ridicule, toi c'est un peu un gars qui est là pour, tu vois là c'était intéressant dans ce métier parce que justement j'étais là pour distribuer la parole et pour nommer les choses, des choses qui allaient avoir lieu, une fois que les choses avaient eu lieu, il fallait, nous venons d'assister à la fin de Sokol, nous allons maintenant, enfin, j'étais comme ça, et ça m'a, je crois, un petit peu modifié ma façon de scander la parole, en fait. Ce qu'on m'a fait remarquer hier, c'était ça, en fait, c'était la façon de scander, et dans l'écriture, j'aimerais m'approcher, tu vois, je lisais, j'ai un ami qui m'a fait lire qui m'a conseillé de lire le livre de Peter Zendi, là, à coup de poing, sur la ponctuation. Et j'ai acheté la semaine dernière, là, que je n'ai pas encore lu, le texte dont il parle de Tristram Shandy, où ce type a inventé une ponctuation, et aussi, ou même des pages blanches, des pages noires, des pages marbrées, deviennent une ponctuation dans le livre lui-même, et donc même une forme plastique de la ponctuation, des trous, des tirés. Oh, je me dis ça me plairait beaucoup. Et du coup, d'arriver à une sorte de texte, partition, etc. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Dans tous les cas, de traduire physiquement dans la page ces moments de respiration, ça pourrait être assez beau. Là, le texte que j'ai écrit, voilà, il est très... c'est un premier jet. Mais c'est la première fois que je fais ça de transcription de la parole orale. Et je me dis, ça m'ouvre un champ. Très grand en fait. Mmh. Là, je sens que j'ai une piste de travail de ces allées et venues.
Il y a un jeu de circulation en fait.
Et moi-même,
ton travail, à tous les sens du terme. D'abord parce que tu circules dans l'espace quand tu fais.
C'est ça, c'est que moi-même.
Et qu'il y a vraiment. Il y a un jeu de circulation aussi au sens de jeu. Tu as insisté plusieurs fois sur cette question du jeu. Depuis le début, ça
c'est super que tu me dises ça aussi.
Et je l'entends à la fois dans sa dimension un peu légère et humoristique, mais aussi
du jeu, du
rouage.
C'est super que tu dises ça.
Le jeu entre l'écriture et la parole.
Il faut qu'il y ait du jeu.
Oui, c'est ça.
Pour laisser de la place à l'autre aussi. Au lecteur, à l'auditeur. Il faut lui laisser une voix. Sinon, tu satures. Mais c'est vrai que c'est marrant, parce que dans le manuscrit que je viens d'écrire, là, c'est... J'arrête pas de dire dans le manuscrit, toi, que je joue pas, je suis pas joueur. Il y en a même en tant que, et qu'il faut pas jouer avec ça, faut pas jouer avec la mort, faut pas jouer avec ça. Mais que chacun, il y a un jeu avec sa propre fin. C'est aussi ça qui nous fait faire des choses. Et donc il y a une distance juste à trouver. Et à la fin, je parle de la sculpture de Giacometti qui s'appelle « On ne joue plus ». Qui est, tu la vois, cette sculpture, en fait, c'est une maquette, en fait, c'est une pierre creusée de cupules. Mm-hmm. C'est un peu, surréaliste. Hein. Mm-hmm. Et y a des petites... au centre, c'est comme un petit terrain de jeu en miniature, avec cupules, des petites sépultures au milieu et deux petites silhouettes. Et cette sculpture, il l'appelle « On ne joue plus ». Et en fait, je finis là-dessus. Et j'adore aussi, toi qui travailles sur les écrits de Giacometti, et il y a le fameux rêve, le sphinx. Et tu sais que j'adore ce moment-là, parce qu'il essaie, j'en parle dans la finis mon récit là-dessus, puisqu'à un moment donné, il fait ce rêve de l'araignée, enfin, il fait deux rêves avec des araignées. Après, il y a le rêve dans le rêve. Dans son rêve, il se réveille, il continue le rêve. Et après, il essaie de trouver une traduction plastique à ça. Donc, il prend un disque. Et il essaie de placer tous les éléments de son récit avec des mots clés. Et après, il arrive à monter en 3D. Il met des panneaux sur les côtés pour développer les récits. Et ça, ça me bouleverse, en fait. Mm. Tu comprends, par rapport à tout ce dont on parle, cette traduction plastique dans l'espace. Mm. C'est ce que parle aussi de poésie en deux ou trois dimensions. Là, c'est marrant, si j'ai fait le promenade de Cézanne Gentil là, samedi. Et André Fus m'a fait remarquer aussi que je ponctuais beaucoup mes phrases en disant, j'arrêtais pas de dire, je trouve ça beau, ou c'est beau. Elle me dit, c'est fou que t'arrêtes pas de... Et elle me dit, tu parles souvent elle me dit, tu utilises jamais le mot poésie. Tu dis jamais le mot poète ou poésie. Et c'est vrai, je n'utilise pas ce mot-là. C'est vrai, j'utilise le mot écrivain, artiste, mais pas... Même si j'aime beaucoup le texte, la mystique de Joël Bousquet, et la définition de la poésie la plus simple qu'il donne, c'est l'accueil que l'homme fait à la vie. Et je trouve que c'est une attitude, mais comme l'attitude d'artiste, etc. Et moi, c'est vrai que j'essaye de... Souvent aussi, ce que je disais, tu sais, je m'entends le dire, et je l'écris, que si j'avais été écrivain, justement pour répondre à la question du début, je serais resté dans les ponts funèbres. Parce que c'était la meilleure place que je pouvais avoir pour sortir de moi, puisque dès que j'étais en présence des familles que je recevais, elles m'obligeaient à être présent, à être dans une espèce d'écoute, et il y avait un jeu avec le langage, une attention au langage que aucun autre circonstance m'a... Là, j'étais obligé d'être... Et il y avait du jeu même avec les familles que je recevais, et de la place aussi pour du rire des fois, parce qu'il y a des gaffes, il y a des lapsus, il y a de ma part ou de la part des familles que je recevais, et que tu sens que c'est un peu la soupape qui chuchote aussi des moments, ça fait du bien, quoi. Et que des obsèques, il faut qu'il y ait ce jeu-là. Et comme moi j'étais leur seul interlocuteur, effectivement j'étais aussi un réceptacle, j'entendais beaucoup de choses. C'est là où tout s'est mis en place, en fait. Puisque c'est cette expérience qui m'a amené à la fois en performance, à ce dispositif, à ce petit gars qui est un peu ridicule et qui raconte ses histoires, qui mélange un peu tout, et mes calus blanchots, je sais pas trop quoi en faire. Essayer de mais en même temps, qui fait de son mieux. Voilà, ça c'est mon défaut aussi, tu vois, j'ai ce côté un peu petit gars qui fait de son mieux, quoi, mais qui est un petit peu tâcheron. Et voilà, et tout ça, c'est pas la fausse modestie, c'est juste choisir la juste place pour qu'il y ait du jeu. Et sentir aussi le propos de mon texte, là, c'est de dire, effectivement, il a fallu que je me déplace, puisque dans le monde de l'art, je ne me débrouillais pas si bien que ça, je ne savais pas faire. Donc, il a fallu que je me déplace dans le monde des ponts funèbres, où vraiment, on ne s'attend pas à avoir un gugus comme moi qui œuvre. Et tout d'un coup, là, hop, là, tout reprenait sens, et là, je me sentais artiste, sans avoir besoin de revendiquer le statut. Et ça, c'est cette espèce de d'aller et venu. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai choisi la forme promenade, parce que ce que j'apprécie dans mes promenades, c'est quand les gens viennent, ou même quand tu étais là au musée des moulages, c'est que ça touchait tout le monde. Tu vois, ça ne s'adressait pas au microcosme. Et ça, pour moi, c'est très, très... Enfin, sans démagogie, hein, c'est important. C'est important de pouvoir... J'aimerais que le texte que je suis en train d'écrire, là, puisse s'adresser à tout le monde, en fait. Donc j'aimerais, et hier j'étais content parce qu'il y avait deux jeunes filles qui étaient là et qu'on trouvait que c'était humble, et je me disais il y a deux mots que j'associe dans le texte, c'est humide et humble, justement, tu vois, pour reprendre
humide,
et voilà, et que souvent dans ce métier de pont-funèbre, je me sentais humide et humble, Tu vois, j'avais les mains moites, je prenais la flotte, j'étais, et je me sentais moelleux et des fois un peu. Et voilà, donc c'est ce truc d'humilité, c'est un peu. Enfin, c'est pas. En plus, ça vient du. Enfin voilà, c'est une attitude qui t'oblige à l'humilité. Mmh. Et,
tu parles d'adresse.
Oui, très important.
Et ta parole est une adresse, peut-être que ton écriture aussi. Est-ce que tu voudrais nous lire quelque chose?
Ah bah oui.
on va
comme ça on verra la différence entre la parole attends, qu'est-ce que je pourrais on a quoi comme temps? Enfin, tu vas choisir un texte plutôt pas trop long.
Pas tu trop me dis long.
Pas trop long. OK.
Donc ce que tu vas lire, c'est un texte de ton...
Voilà, on a fait une petite publication où j'ai choisi un certain nombre de textes que j'avais publiés sur Remu et d'autres pas. Mm-hmm. Bon, allez. Donc celui-ci, je l'ai écrit le 16 décembre. Tout ça. Quand je suis artiste, rien ne me justifie. Où je suis, où j'agis, c'est à moi de le décider. Personne ne m'attend. Personne n'a besoin de moi. Très vite, je peux avoir le sentiment que ça tourne à vide. Le plus douloureux, c'est d'accepter les longues périodes de jachère. Le plus souvent, je suis mon propre commanditaire, difficile à satisfaire. C'est quand je ne sais pas ce que je fais que je tire de moi le meilleur. Quand je ne suis pas maître. C'est dans ces rares moments que l'on peut dire de moi... Tiens, celui-là, c'est un artiste, suffisamment travaillé de l'intérieur. Sous-entendu, il serait bien incapable de s'adapter à notre milieu, de faire ce qu'on lui demande, ce qu'il ne faut pas entendre. Ils n'entendent pas les pleurs à l'intérieur, ils ne voient que les angles à l'extérieur. Quand je suis croque-mort, je sais ce qu'on attend de moi. Je me conforme à l'image que l'on se fait de moi. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais en amont des opérations funéraires que je coordonne. Je reste à ma place. C'est ce que les familles apprécient. Je sais où est ma place. Finalement, ça me repose. J'ai pas à me justifier. Je gagne à me faire discret. J'apprends l'art de la discrétion. Dans ce métier, la discrétion est une qualité très appréciée. Le plus souvent, les familles vous remercient pour votre discrétion. Une fois qu'on a pris le pli, c'est pas si difficile que ça de respecter cet écart. Il y a des moments où l'on travaille dans l'inframince. Cela exige de travailler sa sensibilité, de savoir l'ouvrir au bon moment, de la refermer dans l'instant qui suit. Il suffit de ne pas faire trop ronfler la machine, d'être un peu en sous-régime. Et à la fin de la cérémonie, on s'entend dire « c'était parfait ». Si les prestations ont correspondu à leurs attentes, les familles savent vous dire merci. Vous rentrez chez vous le soir content. Content de faire ce métier. Un métier qui a du sens. Un métier où l'on ne fait pas semblant. Un métier où l'on sauve les apparences. Oui, dans ce métier, il faut faire attention à sa mise, à son pas, à son débit, à ses moments d'absence. Et le bizarre dans cette histoire, c'est que je ne me sois jamais senti autant artiste que dans cet habit de croque-mort. Comme ça. Sans rien faire, sans avoir à forcer le trait ou à revendiquer quoi que ce soit. Je continue ou j'arrête ?
Non, continue.
À cet endroit, je pouvais exercer ma sensibilité comme je l'entendais, incognito. Le plus important dans ce métier, plus que dans tout autre, c'est de ne pas se regarder le vivre, c'est d'adhérer tout entier à ce que l'on fait, de ne pas rechigner aux tâches les plus ingrates ou rébarbatives. La paperasse, quand on sait pour qui, pourquoi on l'a fait, eh bien ça passe. Je m'en acquittais pas plus mal qu'un autre. J'y passais peut-être un peu plus de temps que ma collègue qui avait l'ancienneté dans le métier. Faut dire aussi que je suis consciencieux. Ça, la dame du bien de compétences, elle l'avait tout de suite détecté. Tant elle m'a vu arriver avec mes classeurs dans mon sac à dos, mes chemises de couleur, mes papiers découpés, avec consigné à la main les valeurs auxquelles je tenais, les qualités que je pouvais m'attribuer. Pour me sentir légitime là où je suis, il m'a donc fallu endosser cet habit et me laisser traverser par les événements. le moteur principal étant la confiance que chacune des familles que je recevais m'accordait. Confiance à regagner à chaque fois. Les jours où je fanfaronnais, il m'arrivait toujours une tuile au prochain convoi. C'est un métier qui vous remet à votre place, vous apprend l'humilité. Plus près de toi, Seigneur, on ne voit bien qu'avec son cœur, une jolie vache dans une peau de fleur. C'est à ce moment-là que la question me tombe dessus. Mais alors, si c'était si bien que ça, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'as quitté l'autre rive? T'avais l'air trop fait pour ça. C'est dommage. À t'écouter, ça me donnait presque envie de mourir. Je t'aurais confié mes obsèques les yeux fermés. Maintenant, je peux vous le dire. J'aurais jamais dû arrêter. Déjà, à l'époque de cette soudaine conversion, j'avais compris qu'en tant qu'artiste, c'était mort. J'étais grillé. Je n'avais pas su me débrouiller. Alors qu'à l'autre rive, les gens m'aimaient. Je me sentais comme protégé. C'est le meilleur traitement que j'ai trouvé pour résorber mes difficultés. En quelques mois, j'ai eu le sentiment de me redresser. Dès que j'ai arrêté, il m'arrivait que des merdes. L'espace s'est rétréci autour de moi. Je me suis senti mauvais. Oui, mauvais. Pas envie de s'éterniser. Envie d'écourter. De refermer les robinets.
Voilà. Merci François.
T'as mémé un peu.
Bah oui, mais c'est un texte nouveau.
Tu vois la sincérité là. Je refais un café?
Non, merci.
Non.
On a bientôt fini.
Ah, mais je croyais que c'était fini, fini. J'ai cru, excuse-moi.
Non, non, c'est pas fini.
C'est bien.
Mais on peut s'arrêter là-dessus.
Fermer les robinets?
Ouais. Avec le bruit de la pluie?
Avec le bruit de la pluie.
Merci François.